Résilience, Maxime Maury, Jacques Lavergne, bonjour. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Alors pour cette émission particulière, nous avons un invité qui se trouve très loin de nous, un invité qui est Daniel Cueff, qui en son temps a défrayé la chronique très positivement en notre sens. Daniel Cueff a été pendant 20 ans le maire de Langouette. Il a dirigé une ONG de protection des enfants dans la rue, notamment dans les pays de l'Est et singulièrement en Pologne. Il a publié un ouvrage méthodologique, Les enfants dans la rue. Il a été maître de conférence en sciences de l'éducation à l'université de Rennes 1, également conseiller régional de Bretagne délégué à l'écologie urbaine, et ça c'était entre 2010 et 2015. Il a présidé l'établissement public foncier de Bretagne, qui s'occupe de protection des terres agricoles et de développement du logement en zone urbaine. Il a présidé l'association nationale PALM, qui se consacre au parc d'activités engagées dans le développement durable. Il est l'auteur de deux essais politiques, « La Bretagne, un horizon démocratique pour notre République », publié chez Le Temps, et « 100 jours » de Christian Troadec, chez aux éditions Saint-Honoré. Et puis, ce qui a motivé également le fait que nous l'ayons invité dans notre émission Résilience de ce jour, il a publié aux très belles éditions Indigènes, un livre qui s'intitule « Paysans, on vous aime, défendez-vous, défendez-nous », sous-titré « Contre les pesticides de synthèse ». Maire de Langouette, pendant 20 ans, il n'a pas souhaité se représenter aux élections. Il a été également président de la communauté de communes du Val Idil d'Aubigné de 2008 à 2014. Et dans chacun de ses mandats, il s'est bien évidemment attaché à l'aspect écologique de la gestion. Nous allons l'écouter à présent. Et la première question que je lui ai posée, c'est bien évidemment où se situe Langouette et présentez-nous la petite ville de Langouette. Je vous propose de suivre les propos de Daniel Cueff.
Une grande partie des gens travaillent sur la métropole rennaise, soit dans l'industrie automobile, soit dans l'administration, soit dans l'hôpital.
Et alors, c'est un pays qui se trouve donc au bord de Rennes, c'est la Bretagne, nous sommes dans la Bretagne profonde, ou pas, c'est un pays qui est assez, qui est, comment dire, les Bretons, on l'a dit souvent, sont très régionalistes. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que c'est le cas des gens de votre commune? Alors, régionaliste ou indépendantiste? Je ne sais pas où ça s'arrête.
Alors là, vous parlez de Bretagne profonde, donc déjà, vous allez avoir beaucoup de soucis dans Bretagne, ce genre de discours. Nous ne sommes pas dans le désert toulousain. Nous avons, au contraire, une région qui est dotée d'un modèle assez particulier de réseaux de villes moyennes et de villes petites, liées les unes aux autres, avec également trois métropoles. Donc, c'est plutôt un équilibre urbain en Bretagne, contrairement à la région de Toulouse, où c'est plutôt le désert toulousain après Toulouse. Donc c'est une particularité qui est liée à la géographie, bien entendu, à l'histoire, à la culture des deux langues, langue bretonne et langue galaise, mais aussi à l'industrie agroalimentaire et à l'agriculture qui s'est développée, évidemment, sur l'ensemble du territoire de la Bretagne. Alors, pour répondre à votre question, sur la question régionaliste, il est évident que vous ne connaissez pas un seul Breton ou une seule Bretonne qui aujourd'hui ne pense pas à la Bretagne sur une région devant avoir plus d'autonomie. Plus d'autonomie, c'est un peu dans la filiation de Michel Rocard qui déjà en 1966, à Saint-Brieuc d'ailleurs, indiquait qu'il souhaitait une gestion différenciée de la République, indiquant qu'on ne pouvait pas gérer la Bretagne avec ses 2700 km de côte comme on gérait la Franche-Comté. Donc cette gestion différenciée de la République, qui lui a permis d'ailleurs de faire les accords de Nouméa, qui lui a permis de faire, qui a permis la fusion, par exemple, entre la ville de Lyon et le département lyonnais, ce sont des choses qui touchent les Bretons. Il y a deux sujets, l'Assemblée de Bretagne en particulier, qui fusionnerait les conseils départementaux avec le conseil régional. Et deuxièmement, la Bretagne a 5 départements, puisque aujourd'hui la Bretagne est historique, qui est 5 départements, est amputée de la Loire-Atlantique du fait d'un décret du maréchal Pétain en 1939. Donc, voilà où nous en sommes. Donc, on aspire beaucoup en Bretagne à avoir beaucoup plus d'autonomie fiscale, mais c'est comme dans toutes les régions, hein, d'autonomie de décision. Aujourd'hui, contrairement aux Landes allemands, les régions françaises n'ont aucun pouvoir législatif, aucun pouvoir réglementaire, et pire, n'ont aucun pouvoir d'autonomie pour lever l'impôt, puisque toutes les régions sont dépendantes des dotations à 100% de l'État.
Vous souhaiteriez avoir une régionalisation beaucoup plus poussée. Lever l'impôt, ça a toujours été en France, vous le savez, l'apanage de l'État. Je ne sais pas si culturellement nous sommes et politiquement nous serions prêts à ce genre de réforme.
Oui, mais c'est en fait d'avoir, par exemple, il y a tout un tas de systèmes aujourd'hui qui permettent d'avoir, par exemple, un taux marginal de fiscalité, qui permettent de renvoyer la fiscalité là où sont les dépenses. Vous ne pouvez pas avoir de démocratie si vous n'avez pas de compte à rendre sur les impôts qui sont prélevés. Donc, la notion d'impôt est une notion démocratique, puisque vous levez l'impôt pour de l'action publique d'intérêt général, et donc vous avez à le justifier. À partir du moment où vous êtes sous dépendance à 100% des dotations de l'État, vous n'avez plus de compte à rendre d'un point de vue démocratique, en tout cas aux gens qui vous ont pourtant élu conseiller ou conseillère régionale de Bretagne.
Vous avez, je l'ai dit en démarrant, alors j'ai parlé de sensibilité écologique, mais ce n'est peut-être pas exactement le terme. Vous êtes écologiste?
Oui, je revendique cette notion-là depuis longtemps, puisque j'ai un parcours professionnel qui m'a vraiment fait comprendre de l'intérieur que un environnement dégradé, hostile, ne pouvait pas produire du bonheur, et que donc il fallait pouvoir agir sur son environnement pour avoir une chance de créer un peu plus de convivialité, un peu plus de fraternité. Donc, quand j'ai été élu maire de Langouette, j'ai proposé en 1999, à faveur d'une élection partielle, à mes collègues conseillers municipaux de nous attacher à cette notion de développement durable. Cette notion était inconnue du langage politique local. On parlait de cadre de vie, et encore le cadre de vie, ça consistait au fleurissement du village. Donc en travaillant sur cette notion de développement durable, c'était beaucoup plus offensif sur le plan évidemment de la transition écologique. Comme c'était un peu théorique, le rapport Brundtland de 1987, nous l'avons transformé dans notre petit village sur des challenges très pratiques. Donc nous avons pu ainsi constituer la première cantine 100% bio de France, c'est à Langouette. Nous avons les premiers panneaux photovoltaïques installés sur une collectivité, c'est à Langouette. Nous produisons aujourd'hui 100% de notre électricité pour les besoins communaux. Et nous avons commencé très récemment à produire de l'électricité pour les habitants, puisque la loi nous permet depuis 1997, comme à toutes les communes de France, d'être producteurs de l'énergie renouvelable locale pour les habitants. Nous avons construit du logement social très écologique également, avec des performances importantes sur le plan des écomatériaux, mais aussi sur l'énergie. Actuellement, sont en construction dans le village des maisons en accession à la propriété qui ont zéro besoin de chauffage extérieur. Donc, ce sont des performances très importantes sur le plan écologique. Et nous avons également travaillé sur le premier service public de véhicules à assistance électrique en milieu rural. Nous avons travaillé sur une ferme permacole, travaillé sur l'autonomie alimentaire du village. Bref, donc c'est de l'écologie concrète, de l'écologie de l'action. beaucoup plus que de l'écologie de l'incantation. Donc, nous avons fait les choses, nous avons démontré par l'expérience que ces choses avaient du sens pour chacun et chacune d'entre nous.
Comment ça a été reçu par vos concitoyens? Parce que c'était certainement une révolution, c'est quelque chose, vous l'avez dit tout à l'heure, le cadre de vie, c'était surtout le fleurissement du village. Là, vous les avez complètement bouleversés, vous leur avez montré une autre réalité, vous leur avez indiqué une autre direction. Comment l'ont-ils reçu? L'ont-ils accepté? Ont-ils participé? Ont-ils rechigné?
Alors, la commune de Langouette était une commune assez réfractaire au développement durable, à l'écologie. C'est en 1964, dans cette commune, qu'a eu lieu le premier remembrement radical de la Chambre d'agriculture, qui a abouti à ce que 100% des haies bocagères soient arrachées. C'est également là que le président de la FNSEA, Jean-Michel Lemétayer, qui malheureusement est décédé il y a 6 ans maintenant, brutalement, avait ses terres, une partie de ses terres sur la commune de Langouette. Donc, ce n'était pas un village qui courait après l'écologie, qui ne connaissait pas forcément la terminologie non plus. Et donc, il a fallu faire de l'écologie concrète. Parler de l'écologie, c'est bien. Faire des discours sur l'écologie, c'est très bien. Mais la concrétiser, c'est mieux. Donc, quand nous avons rénové notre école, nous l'avons rénovée selon les principes de la haute qualité environnementale, HQE, ce qui nous a permis de faire une école tout en bois avec des performances incroyables sur le plan acoustique, sur le plan thermique. C'est une école qui produit 50% de son électricité, qui récupère les eaux de pluie pour les sanitaires, enfin, qui a un certain nombre de performances écologiques. Et quand les gens sont venus visiter, inaugurer avec nous cette école, qui était leur école, l'école de la République, donc avec une partie ancienne rénovée, une partie nouvelle agrandie, les gens se sont dit, voilà, c'est pas mal cette affaire-là, ça a l'air positif, en tout cas ça nous plaît. Et surtout, si vous voulez, ce qui a été l'élément pour nous le plus moteur, ce sont été les anciens. Parce que les anciens se sont aperçus en fait qu'on ne faisait que revisiter des bons sens qu'eux avaient dans les constructions de leurs parents, par exemple. Par exemple, les maisons en terre, pierre, sont orientées au sud, récupèrent l'eau de pluie, sont chauffées au bois, comment dirais-je, sont bien orientées pour profiter du soleil. En fait, on n'a fait que moderniser des choses qui étaient en fait en prise avec la nature et l'environnement. Donc, ça nous a donné un crédit en disant qu'on ne rejetait pas du tout ce qui s'était passé dans le temps. Au contraire, c'est dans le temps que nous avons appris beaucoup de choses. Il s'agit simplement de les revisiter avec de nouvelles méthodes, de nouvelles technologies, parfois de nouveaux matériaux.
Je vous demandais comment les gens l'avaient reçu. Est-ce que j'ai cru comprendre que vous vous étiez retiré de ce fauteuil de maire au bout de 20 ans, ce qui peut se comprendre, mais que la commune était passée d'autres mains et des gens qui ont peut-être une autre vision de l'affaire écologique que la vôtre et que celle de qui aurait pu vous et que ceux qui auraient pu vous succéder, pardon.
Si vous voulez, c'est là vous touchez à la question des pesticides.
Voilà,
C'est-à-dire
j'y arrivais
que,
tout doucement.
voilà, vous me forcez la main là, sur cette question. Donc, j'y vais tout de suite. Donc, c'est vrai, avec toute cette expérience accumulée en 21 ans de mandat, la commune est devenue célèbre sur le plan écologique. Elle appartient à un univers européen, où plusieurs communes sont citées pour la transition écologique réussie, et Langouette fait souvent partie de ces villages ou de ces villes qui sont désignées. Par exemple, aussi très souvent, Losangouël, qui est dans le Nord-Pas-de-Calais, qui est souvent aussi citée. On se retrouve donc dans les mêmes reportages télévisés, beaucoup de reportages télévisés, beaucoup d'émissions de radio, beaucoup d'émissions presse. Et là, on apparaît, on nous désigne, si vous voulez, comme le village écolo. Il y a même un titre qui s'appelle Langouette, l'Eldorado écolo. Évidemment, comme tout le monde, la presse ne peut pas s'empêcher de nous traiter de village gaulois écolo, etc. Mais en tout cas, une image extrêmement positive du village qui semble appartenir au patrimoine écologique, si vous voulez, de la Bretagne, en tout cas, de la France et également, et un petit peu de l'Europe. Et puis, il y a 3 ans, je m'aperçois, si vous voulez, que je me rends compte, de façon assez violente, que les maladies professionnelles des agriculteurs reconnues par la mutualité sociale agricole, du fait des pesticides, sont également les maladies des riverains. Et là, je me dis, mais comment peut-on être qualifié partout de village écolo en ayant ce problème de santé publique? Les habitants de ma commune, spontanément, vont faire leurs analyses d'urine et il y a une petite fille qui se retrouve avec 30% de glyphosate, un taux de glyphosate 30 fois supérieur à la normale. Or, cette petite fille mange bio à la maison et mange bio à la cantine scolaire. Donc les parents sont très inquiets puisqu'ils disent donc ce glyphosate, je ne peux que le respirer. Je ne peux que le respirer. Et il se trouve que c'est inquiétant parce que les gens sont informés, le glyphosate, en particulier une des particules du glyphosate, est un estrogène qui peut être responsable notamment de la maturité précoce des petites filles. Bon. Donc c'est quelque chose qui inquiète les gens. Et comme j'avais pris un arrêté en 2016 d'interdiction des pesticides tueurs d'abeilles autour d'une ruche, de 3,5 km autour d'une ruche, les gens sont venus me dire, Monsieur le maire, c'est bien gentil les abeilles, mais est-ce que vous pourriez faire la même chose, une zone de protection qui nous protège des pesticides, parce qu'on ne veut plus en respirer, les pesticides, ce ne sont pas des vitamines. Bon, de l'autre côté, je me retrouve avec des agriculteurs. Certains, d'ailleurs, se sont convertis en bio de façon magnifique, avec grande réussite économique. Mais d'autres, qui ont aussi pris la succession de leurs parents, continuent le modèle, je dirais, conventionnel, le développent, l'augmentent. Donc, beaucoup plus de cheptel, beaucoup plus de stabulation, beaucoup plus de hangars, beaucoup plus de terres à cultiver, beaucoup plus de maïs, beaucoup plus d'usage des pesticides dans l'environnement. Et ces gens que je connais bien, ces jeunes que je connais bien, me disent, mais non, on a investi du matériel, on a comment, eu des prêts, on a été formés, on a des diplômes pour le bon usage des pesticides, c'est autorisé, ce sont des produits qui sont autorisés par la loi, donc voilà, on ne peut pas revenir en arrière. Et donc je prends un arrêté de distance d'éloignement des pesticides des maisons de 150 mètres des habitations, distance un peu approximative parce que nous n'avions pas de repères, mais qui nous avait été conseillé par l'ONG Génération Future, qui avait fait des mesures autour de terrains sportifs pour savoir à partir de quel moment, de quelle distance les joueurs respiraient moins de pesticides. Et c'était 120 mètres s'il y avait une haie, 150 mètres s'il n'y en avait pas. Donc j'ai pris 150 mètres. En disant aux agriculteurs, je vais prendre la mesure de la décision que je prends, c'est-à-dire que la commune prendra en charge les coûts que vous aurez du fait de mon arrêté. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça, c'est-à-dire que le syndicat majoritaire FNSEA et la préfète de la République se sont acharnés pour que l'arrêté que je prends soit annulé, que les relations avec les agriculteurs soient annulées. Et là, je me suis aperçu, si vous voulez, qu'en touchant à cette histoire des pesticides, j'avais blessé le monde agricole de façon très forte, contrarié des intérêts énormes, des intérêts colossaux, et que ces intérêts se sont liés, si vous voulez, pour créer une liste pour les élections municipales. Et donc, il y avait des gens qui travaillaient à la Chambre d'agriculture, des gens qui étaient ouvriers agricoles, des gens propriétaires terriens de la noblesse locale, des gens d'ailleurs qui ne s'entendaient pas d'habitude, qui étaient plutôt en conflits familiaux et autres. Mais ils ont présenté une liste. Il y a eu 80,25% des électeurs à se présenter aux élections, pas aux élections, au vote. Il y avait 30 candidats, ce qui est presque 10% des électeurs à se présenter aux élections. Et la liste, donc, je dirais FNSEA, a gagné de 2 voix en ayant très bien travaillé, puisque des spécialistes qui viennent de l'extérieur et qui regardent les professions de foi qui étaient distribuées dans les boîtes aux lettres des habitants pensent que la liste FNSEA était en fait la liste écolo. Donc, il y a eu une confusion, d'ailleurs, qui pose aujourd'hui des problèmes parce que La personne qui s'est présentée pour être élue n'a pas voulu être maire au final. Voilà. Mais ce qu'on constate comme extrêmement intéressant sur le plan sociologique, en tout cas, il y a des observateurs qui aujourd'hui sont sur le terrain pour voir est-ce que le changement de politique, qui n'est pas un changement officiel, puisque au final, il n'y a pas de changement de politique, mais enfin, pour des gens qui sont très hostiles, notamment à l'arrêté que j'ai pris contre les pesticides, est-ce que ça va pour autant modifier la trajectoire et l'ADN écolo du village, est-ce que cet ADN est bien ancré dans le village? Est-ce que le village est lui-même dans une démarche de transition écologique? Ou est-ce que c'est simplement le fait d'un maire autoritaire que j'ai pu être, qui a imposé à tout le monde une politique écologique qui, dès qu'il disparaît de la circulation, s'effondre par elle-même. À ce jour, c'est la politique continue de façon presque linéaire. Il n'y a pas de changement notoire, je dirais, aujourd'hui dans la politique concrète de la commune de Longueuil.
Alors, si on revient sur votre arrêté, sur cette. J'utilisais, je crois, en démarrant le terme croisade, c'est un peu ce qui s'est passé. Racontez-nous un peu comment votre arrêté a été reçu. Vous l'avez dit, la FNSEA et la préfète étaient vent debout. Vous avez dû aller au tribunal administratif. Vous avez aussi été suivi par un certain nombre de maires qui se sont inspirés de votre précédent et de votre exemple. Racontez-nous un peu cette histoire que vous racontez très bien dans le livre que vous avez écrit, donc Daniel Cueff, Paysan, On vous aime, défendez-vous, défendez-nous, sous-titre Contre les pesticides de synthèse. Je le rappelle aux éditions Indigènes. Un petit livre, mais qui permet de retracer complètement cet épisode, dont on sent quand même qu'il vous a marqué. Ça n'a pas été simple pour vous.
Écoutez, au départ, je prends un arrêté dans une petite commune de 600 habitants pour protéger ma population des pesticides de synthèse. Donc, je travaille évidemment un arrêté, parce qu'on est habitué à prendre un arrêté pour interdire les crottes de chiens, pour modifier la circulation, pour interdire ceci, interdire cela. Mais enfin, prendre un arrêté de ce type, c'est pas rien. Je me rapproche donc de juristes de haut niveau pour faire un arrêté qui est une chance d'être comment installé dans le paysage de Longouette avec un motif très simple, hein, c'est que face à une carence avérée de l'État à protéger la population, le maire, du fait de son droit de police générale, est habilité en lieu et place d'un État défaillant à prendre des mesures de protection de sa population. Bon. Donc nous partons là-dessus. Ça devait rester à Longouette, hein. Ça devait être un outil pour nous. J'ai pris cet arrêté le 18 mai, au moment où les épandages étaient finis, ou quasiment finis. Donc ça permettait de préparer la saison suivante. Ça n'a pas été un arrêt brutal de l'usage des pesticides de synthèse. Et nous avions commencé à travailler avec des agriculteurs pour voir, ben, sur ces 150 mètres, le coût, par exemple, de location de matériel, de désherbage mécanique, etc. On avait commencé à travailler. Mais malheureusement, on dit que c'est moi qui ai fait le buzz, mais non, celle qui a fait le buzz, c'est Madame la préfète de la République, qui venait d'arriver en Bretagne, qui peut-être n'a pas s'est pas aperçu où elle arrivait, n'a pas essayé de savoir qui était Daniel Cueff, quel était ce village que les services de l'État adoraient parce que c'était un exemple pour l'écologie. Bon, et ces services ne viennent pas me voir et elle est sous pression, comme d'habitude, comme tous les préfets, sous la pression sur la FNSEA. Et au lieu de me téléphoner en me disant « Monsieur le maire, je suis embêté », cet arrêté me paraît illégal, ça m'embête, il y a un risque de jurisprudence, mais par contre, je comprends le problème de santé publique qui est le vôtre, comment on peut faire, est-ce qu'on peut travailler ensemble, etc. Non, non, fais pas ça. Elle envoie un communiqué de presse au journal Ouest-France en disant, si monsieur le maire de Longouette ne retire pas son arrêté, je le convoque au tribunal administratif. Ouest-France publie ce communiqué de presse. Le lendemain, j'avais toutes les ONG d'Europe, de France et de Navarre, même des États-Unis, qui m'envoyaient des messages en me disant, Monsieur le maire, tenez bon, on est avec vous. Regardez les dossiers que nous avons, c'est des dossiers incroyables. Les pesticides, c'est très dangereux. Je reçois des dizaines de messages, des milliers de messages, des centaines de milliers de cartes postales. Des gens organisent spontanément des pétitions qui font 250 000 signatures en quelques heures. L'IFOP fait un sondage, 96% des Français interrogés approuvent mon arrêté. Le New York Times, ça vient à l'angouette. Plantu fait deux dessins à la une du Monde, etc., etc., etc. Et donc là, ça a été un emballement médiatique extrêmement imprévu auquel il a fallu faire face, évidemment, et avec beaucoup d'agressions, si vous voulez, de toutes sortes, puisque le monde agricole, blessé par mon arrêté, humilié par mon arrêté, ou en tout cas à qui on fait croire que mon arrêté est à leur destination, se deviennent extrêmement offensifs, extrêmement menaçants. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai écrit le bouquin « Paysans vous aiment » parce que c'est d'ailleurs lors d'une grande manifestation des paysans contre mon arrêté à Longouette que des habitants sont venus avec une grande pancarte en mettant sur cette pancarte « Agriculteurs, on vous aime ». Donc moi j'ai repris ce message « Paysans, on vous aime ». Parce que dans mon arrêté, dans mes propos, jamais, jamais vous verrez une critique du monde agricole et une critique des agriculteurs. C'est un peu comme Irène Frachon qui, à Brest, attaque le médiateur. Quand elle attaque le médiateur, elle attaque les laboratoires Servier, responsables de ce médicament soi-disant positif, mais elle n'attaque pas les pharmaciens. Et moi, c'est pareil, je n'ai jamais attaqué des agriculteurs. Au contraire, je considère que c'est la société qu'il faut remettre en cause, société qui a amené les agriculteurs à utiliser abondamment les pesticides de synthèse. Il faut attaquer aussi l'État et le ministère de l'Agriculture en particulier pour leur demander des comptes. Comment se fait-il que ces produits soient aujourd'hui sur le marché sans qu'il y ait d'études d'impact sur les conséquences, en particulier sanitaires, pour les riverains? Donc, voilà l'état du combat. Alors après, un certain nombre d'autres communes ont pris des arrêtés similaires. D'ailleurs, nous étions trois communes à prendre le même arrêté le même jour à la même heure. Nous avions convenu ça. Nous avions et d'autres communes, à la fois pour soutenir, mais aussi des communes qui n'ont pas d'agriculteurs. Je pense par exemple à la commune de Sceaux ou de Gennevilliers, Malakoff, Nanterre, n'ont pas d'agriculteurs. Mais par contre, ils avaient un problème aussi d'usage abondant des pesticides de synthèse dans l'entretien des copropriétés, les bailleurs sociaux, les copropriétaires et tout ça. Et donc, c'est très dangereux parce que c'est en plus très proche des maisons, très proche des jeux d'enfants. Et ces maires, très sensibilisés par la problématique de santé publique que posent les pesticides, souhaitaient qu'il n'y ait plus de pesticides dans ces copropriétés. De la même manière, beaucoup de ces communes sont traversées par des voies ferrées, SNCF ou RATP, qui utilisent et abusent et utilisent abondamment, je dirais, les pesticides de synthèse. Et donc, ces arrêtés étaient faits pour dire aussi que c'est bien les produits qu'on attaque et pas les agriculteurs. Et d'ailleurs, ça a eu des effets très considérables, puisque dans ces communes qui ont pris les arrêtés, les prestataires de services, enfin, les bailleurs sociaux, par exemple, ont changé les contrats avec leurs prestataires de services, au grand bonheur des paysagistes et des horticulteurs qui sont parmi les premières victimes reconnues par la MSA des pesticides. Et ils ont commencé à changer les prestations en disant ben, on n'utilisera plus désormais des pesticides de synthèse, désherbants et autres dans l'entretien des espaces verts communs. De même, la SNCF aujourd'hui, je peux vous le dire, la SNCF aujourd'hui, dans toutes les agglomérations habitées, ces locomotives désherbeuses sont dotées de GPS et dans les zones habitées ne passent plus de glyphosate pour éviter que ce glyphosate qui s'évapore évidemment puisse aller dans les maisons et les immeubles avoisinants.
Pour autant, l'agriculture continue à utiliser ces produits, continue à les répandre près des habitations, et sur ce plan-là, même s'il y a une prise de conscience, rien n'a véritablement changé, me semble-t-il.
Non, rien n'a véritablement changé. Vous avez, le président Macron avait fait des promesses, hein, 2021, plus de, plus de glyphosate. Nicolas Hulot avait accepté d'aller au gouvernement, notamment sur ses engagements. Or, tout ça s'est reculé, tout ça s'est annulé. Nous avons aujourd'hui un gros problème démocratique en France, hein, c'est depuis 1947, c'est-à-dire que la politique agricole de la France est gérée et co-gérée par le syndicat majoritaire. Et donc ça, c'est depuis 1947, ça s'est mis en place comme ça, ce qui fait que le syndicat majoritaire est aux commandes partout. Il est aux commandes dans les chambres d'agriculture, dans les SAFER, dans les coopératives, etc. Et les intérêts des coopératives liées aux pesticides sont très considérables. Donc vous avez quelque chose de tout à fait anormal sur le plan démocratique. Ça existe aussi dans un autre ministère qui est le ministère de l'Intérieur, où il y a une co-gestion entre les syndicats policiers et le ministre de l'Intérieur, ce qui fait qu'on peut dire ici, entre nous, si vous voulez, puisque personne ne nous écoute, mais qu'en définitive, si vous voulez, les ministres passent, les syndicats restent. Et donc, la gouvernance est effectivement très compliquée. Donc, on ne pourra passer à un stade supérieur, y compris sur le démocratique, qu'à partir du moment où ces lobbies qui sont au cœur de la décision politique disparaissent de la décision politique. Rappelez-vous la démission de Nicolas Hulot, c'était de dire « je suis contrarié sans cesse tous les projets de mon ministère alors que je suis troisième du gouvernement, ministre d'État troisième du gouvernement, sont contrariés toujours par le ministère de l'Agriculture qui s'oppose systématiquement à toute évolution de quelque nature que ce soit. » Donc, on voit que c'est un problème démocratique, c'est un gouvernement probablement démocratique, j'espère démocratique, qui passera le cap et qui, aujourd'hui, sera élu, en tout cas que les électeurs vont voter pour des gens qui feront un véritable programme pour sortir des pesticides de synthèse. Ça veut dire aider le monde agricole, les agriculteurs, à sortir des pesticides de synthèse. Les agriculteurs sont prêts, il n'y a pas de souci. Il faut qu'ils aient un signal important, il faut qu'ils aient des aides aussi, c'est normal que nous aidions notre agriculture. C'est nous qui les avons mis dans la chimie et la chimio, il faut absolument les sortir de là. Mais nous avons entre ces agriculteurs et la société, il y a malheureusement la FNSEA et ça pose beaucoup, beaucoup de problèmes. Je peux vous dire que ça demande un journalisme d'investigation tout à fait considérable qui a déjà commencé.
Comment vous expliquez, Daniel Cueff, que ce syndicat agricole, comme tout syndicat qui est censé représenter ses mandants, continue à les pousser dans une voie qui les empoisonne? Moi, j'ai eu un beau-père agriculteur, je dis j'ai eu parce qu'il est mort il y a 20 ans, je l'ai vu beaucoup épandre sans aucune précaution ces fameux pesticides de synthèse, et souvent de la firme Monsanto. Comment vous expliquez que la FNSEA n'ait pas beaucoup plus de soucis de la santé des agriculteurs, de ses mandants, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Vous le dites dans votre livre, effectivement, il y a les gens qui vivent autour des agriculteurs et qui peuvent être touchés par ces produits, mais en premier lieu, ceux qui sont en première ligne, ce sont les agriculteurs. Et la FNSEA devrait se soucier de ce problème. Elle ne s'en soucie absolument pas, elle n'en a rien à faire. Comment ça s'explique ?
Il y a beaucoup d'explications. Il y a le fait que la FNSEA tienne l'ensemble des leviers financiers en particulier, puisque quand vous êtes le syndicat majoritaire, vous avez des places assurées dans la coopérative qui vend les pesticides, vous avez une place assurée dans les banques qui délivrent les crédits. Et donc, si vous voulez avoir un crédit bancaire pour votre exploitation agricole, vaut mieux être à la FNSEA. Vaut mieux, en tout cas, ne pas s'y opposer. Donc, c'est toute une mécanique qui est comme ça. Il y a aussi un phénomène qui est très extrêmement inquiétant, c'est qu'il y a beaucoup de membres de la FNSEA qui ont des mandats dans la Chambre d'agriculture, des mandats à la SAFER, des mandats au Crédit Agricole, dans les coopératives, ils touchent des jetons de présence qui vont jusqu'à des fois 220 euros pour une réunion. Donc, les réunions se multiplient et parfois, si vous voulez, le salaire, enfin, les indemnités reçues de ces mandats sont supérieures aux revenus agricoles. Intéressez-vous aux revenus de la présidente de la FNSEA, vous verrez à quel point ces revenus sont énormes du fait de ces mandats, hein. Et bien, tout ça se décline, bien sûr, c'est beaucoup moins plus on arrive sur le terrain, mais en fait, ça reste quand même des revenus très conséquents qu'on va trouver chez les jeunes agriculteurs, qu'on va trouver dans les MESA, dans les, enfin, tous les organismes. Nous sommes dans un milieu qui est fermé sur lui-même. Mais j'insiste beaucoup sur le fait que les agriculteurs ont du mal à parler de tout ça parce qu'il y a l'omerta, mais ils n'en pensent pas moins. Et je crois aujourd'hui que ce discours radical, je dirais, de la FNSEA qui nie les problématiques des pesticides et qui agresse, je dirais, ceux qui mettent en question ces pesticides en les qualifiant d'agribashing, de non-défenseurs de l'agriculture. Bon, c'est un discours qui commence quand même à avoir moins d'effet, je dirais, dans le monde agricole. Mais c'est beaucoup trop lent.
Oui, c'est beaucoup trop lent. Et vous évoquiez les coopératives. J'en ai parlé récemment dans une émission avec Jean Gattel. Peut-être que le nom vous parle, qui a été ministre de Laurent Fabius et de François Mitterrand, qui a écrit un livre sur l'économie sociale et solidaire. Et on se retrouvait avec Jean Gattel pour dire qu'aujourd'hui, les coopératives, a priori fondées par les agriculteurs pour les agriculteurs, eh bien, ils sont devenus un peu les esclaves et les dépendants de ces coopératives qui les ont complètement bouffés et absorbés. Ça veut dire que les Trente Glorieuses, où nous avons incité nos agriculteurs à aller dans un certain sens, vous parlez de chimie et vous avez même, je ne sais pas si c'était volontaire, parler de chimio, mais c'est de ça qu'il s'agit aussi pour eux. On les a mis dans une voie qui est aujourd'hui une impasse, qui aujourd'hui menace leur santé, menace notre santé, et on s'aperçoit que le système est complètement verrouillé. Donc, comment voyez-vous l'avenir de l'agriculture si ministère et FNSEA sont, disons, alliés pour continuer dans ce sens, et comme vous l'avez dit justement, les ministres passent, la FNSEA est toujours là. Comment va-t-on sortir de ce système
Alors, il faudra, je pense, en tout cas, là où nous pouvons agir, c'est-à-dire sur notamment la région Bretagne, puisque c'est à portée de décision politique, c'est d'engager un véritable mouvement je dirais, porté vers cette transition écologique qui soit basée sur la multiplication des propositions, des solutions qui viendront du terrain. Ce que m'a appris cette histoire des pesticides, c'est qu'en définitive, en voulant bien faire, on se bloque vis-à-vis d'un monde agricole qui vous en veut, qui se sent humilié, etc. Donc vous avez beau leur expliquer que ce n'est pas du tout le cas, mais il n'empêche que c'est comme ça qu'ils vivent. Alors je sais bien qu'on leur donne, on les attise là-dessus, je suis bien conscient. Mais je pense aussi que si nous avons une politique claire en région Bretagne en particulier, mais que nous évitions surtout de dire aux agriculteurs ce qu'il faut faire. Je crois que c'est l'erreur principale. C'est l'erreur de la technocratie, c'est-à-dire que nous allons vous expliquer comment travailler, nous allons vous expliquer comment faire de l'agriculture, nous allons vous expliquer comment faire ci, comment faire ça. Et d'ailleurs, les aides que vous allez avoir seront conditionnées au fait des bonnes pratiques, etc. Ça, c'est quelque chose qui blesse encore plus le monde agricole, comme d'ailleurs tout le monde, où des technocrates, des élus viennent vous dire comment être agriculteur alors que vous n'êtes pas agriculteur. Donc c'est plutôt sur la base de challenge, c'est la base de défi, où je lancerai un défi pour la région Bretagne, qui est de dire, voilà, nous allons dorénavant avoir une agriculture sans impact négatif, ni sur l'environnement, ni sur la santé, ni sur l'emploi. Qu'est-ce que vous êtes en situation de proposer pour contribuer à ce projet régional? Et je pense que nous aurons beaucoup plus d'efficacité que de faire des appels à projets qui ont comme conséquence d'essayer de faire rentrer les projets dans des cases. Donc les gens, les agriculteurs en particulier, sont obligés de modifier leurs projets pour rentrer dans la case, parce que c'est là qu'il y a les subventions. Et quand ils sont arrivés dans la case, ils ne peuvent plus en sortir. Ils sont bridés par des conventions, des financements, des prêts bancaires, tout ce que vous voulez. Et donc, ça fige la société. Donc, l'un des projets que je vais faire lors des élections régionales prochaines, c'est la suppression totale, pleine et entière, et définitive des appels à projets. Les appels à projets sont aujourd'hui des modes de fossilisation des sociétés, elles ne libèrent pas les initiatives. Nous allons remplacer ça par des appels à solutions et qui n'auront rien à voir avec le fait de rentrer dans des procédures technocratiques absolument épouvantables. Vous savez aujourd'hui qu'il y a des gens hein, vraiment qui feraient des projets, vraiment de beaux projets, c'est-à-dire que sur le terrain, vraiment, c'est comme ça qu'ils procéderaient. Je pense par exemple au plan de refus de la misère que nous allons mettre en place. Voilà comment on ferait là, dans notre secteur, dans notre ville, dans notre village, dans notre coin de Bretagne. Mais ils sont obligés de modifier leur projet, vous voyez, de le resserrer, parce que ça ne rentre pas dans la putain de case technocratique. Et donc, ils modifient les choses. Ce n'est pas comme ça qu'ils auraient fait. Mais pour avoir les sous, on modifie. Et paf, on rentre dans la case, et comme je vous le disais tout de suite, on ne peut pas en sortir. Sans compter le nombre de gens, énorme, vous comme moi certainement, on ne comprend rien, c'est-à-dire on ne sait pas par quel bout prendre le projet, par quel bout est la case, est-ce que la case va durer 2 jours, 3 jours, 6 mois, 2 ans, on est perdu par ça, et seuls les puissants, évidemment, les puissants qui ont des directeurs ou des directrices de captation des budgets, tous les ans regardent où sont les appels à projets, et sont capables de faire des projets spécialement pour entrer dans les cases, pour avoir les subventions. Ça, si vous voulez, c'est terminé, c'est une révolution profonde dans le management des fonds publics et c'est une révolution extrêmement douce et tranquille puisque c'est très simple, il suffit de le décider.
Vous avez été un maire autoritaire ?
Je pense pas, je pense pas qu'on peut on peut faire de l'écologie en étant autoritaire. Je pense qu'il faut par contre ne pas vaciller sur ses objectifs. J'ai eu des objectifs toujours très, 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 très puissants, mais le contenu, la façon d'y arriver, là, nous sommes restés élus extrêmement, non seulement prudents, modestes, mais non sachants. Je prends un exemple concret. Quand nous avons décidé que la cantine serait 100% bio, c'est un objectif politique. 100% bio, parce qu'on ne veut pas de pesticides dans l'assiette des enfants, notamment des petits. On veut soutenir une agriculture bio, etc. Donc, pas de pesticides, zéro. Donc, c'est 100% bio. Donc, c'est facile à dire. On n'avait aucun modèle. On ne pouvait pas aller visiter une cantine bio en France. Ça n'existait pas. 100% bio, j'entends. Donc, on a fait des réunions. Et là, si vous voulez, on avait des agriculteurs, la cuisinière, des parents, des enfants, les instituts, etc. Puis tout le monde. Si quelqu'un disait... Ah oui, mais moi, je suis pas pour. Je pense qu'il faudrait faire la semaine du bio ou un plat bio de temps en temps, etc. Il sortait du cadre. Et donc, la personne qui animait la réunion, elle lui disait, hop, là, vous sortez du cadre. La commande politique, c'est 100% bio. Et donc, la commande a commencé à travailler comme ça. Puis, à un moment donné, on a réussi à résoudre des problèmes de logistique parce qu'il fallait qu'on soit livré. Il fallait savoir auprès de qui on allait acheter les produits, qu'est-ce que ça voulait dire travailler en fonction de la saison, enfin patati patata pataquès. Nous avons réussi à trouver l'équilibre qui nous permettait de démarrer. Et le 4 janvier 2014, quand les enfants sont revenus des vacances de Noël, ils ont mangé bio et ça fait 18 ans, 19 ans maintenant que tous les produits servis aux enfants sont issus de l'agriculture biologique. Après, on a amélioré la logistique, on a amélioré, etc. Donc, vous voyez, et ça, c'est intéressant parce que les élus, là, pour le coup, ne savent pas non plus par quel bout prendre les choses. Hein. Voilà. Donc, et on l'a fait partout dans la commune, sur des choses, y compris sur les aménagements immobiliers. Nous avons fait processus de conception intégrée où on a réuni le même jour un architecte que nous avions choisi, les voisins, les usagers de ces futurs équipements ou maisons. Et nous avons travaillé dans les soirées pour élaborer un projet, mais sur lequel l'objectif écologique était très, très considérable. C'est une démocratie, si vous voulez, c'est une démocratie implicative, une démocratie coopérative, que nous avons peut-être inventée à l'Angouette un petit peu.
Je voulais en venir là, parce que dans votre livre, vous établissez une distinction entre la démocratie participative et la démocratie collaborative. Vous pouvez m'expliquer un peu Comment vous faites justement pour... Qu'est-ce que c'est dans votre esprit qu'une démocratie collaborative? Participative, on comprend à peu près, mais collaborative.
La démocratie participative est une démocratie conservatrice. C'est pas par hasard que ça a été inventé par le Parti socialiste. C'est une démocratie conservatrice. Pourquoi? Parce que vous, comme moi, vous venez dans une réunion, on vous demande d'avoir des projets pour telle ou telle chose. Vous, comme moi, vous allez faire des propositions dont vous avez strictement, vous ne pouvez pas faire une proposition dont vous avez jamais entendu parler. C'est pas possible, c'est inhumain, ça n'existe pas. Et quand vous avez quelqu'un qui, dans une salle, a une proposition un peu originale, un peu alternative, il est tout seul. Et donc, il a du mal, il rame, il rame, il rame contre les... Voilà. Et donc, je l'avais vécu très fortement avec en tout début de mandat en 99, où le village était traversé par une voie, si vous voulez, qui est vraiment où les voitures vont vite. Voilà, et donc, tout le monde était d'accord pour trouver le moyen de ralentir des voitures. Et on fait des réunions publiques, et puis là, j'ai des propositions, des coussins berlinois, des feux, des chicanes, des stops, des dos-d'âne, des machins. Tout un tas de propositions routières, violentes à mon avis, pour résoudre un problème routier violent lui aussi. Alors que moi, dans mon for intérieur, j'espérais de l'art, du paysage, et puis des poules, parce que les poules, vous en mettez plein dans le village, si vous ne savez pas par quel bout ça part, d'un côté, à droite, à gauche. Vous ne pouvez pas causer à une poule. Les gens font attention aux poules, font pas attention aux enfants, mais ils font attention aux poules parce qu'on ne sait pas par quel bout ça va partir. Donc, les gens m'ont dit légitimement, ils m'ont dit, écoutez, monsieur le maire, vous avez trois réunions que vous nous faites, on vous a proposé des choses magnifiques, des coussins berlinois, des tas de trucs, et là, vous nous trucs des poules, quoi. Donc, vous voyez, s'est tout de suite aperçu que la démocratie participative avait une tendance fâcheuse à reproduire à reproduire les mêmes choses. Ce qui est logique, puisque on demande, vous ne pouvez pas inventer quelque chose dont vous n'avez strictement jamais entendu parler. Ou alors on fait de l'acculturation, terme technocratique du public, acculturation du public, où des technocrates viennent vous expliquer la décision qu'il faut en fait prendre. Donc, c'est pas possible. Donc, la démocratie coopérative, c'est autre chose. C'est ce que je vous expliquais avec la cantine. On fixe un cadre politique. Les hommes politiques, c'est fait pour faire de la politique. C'est pas fait pour faire de la technocratie. Donc, on fait un cap politique que l'on doit justifier dans les urnes, hein, devant les électeurs. On doit expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi on pense ça, pourquoi on a cet axe-là, pourquoi les logements aujourd'hui écologiques de la commune seront sans besoin de chauffage. Voilà, c'est un objectif politique pour des questions de solvabilité des gens, pour une question de santé également. Bref, donc on explique. Comment y arriver, c'est une autre paire de manches. Donc on a un peu la formule de dire que la commune, c'est comme un chaudron. C'est une métaphore de Paul Houet. La commune, c'est comme un chaudron, ça bout toujours par sa base, jamais par son couvercle. Donc c'est une politique anti-technocratique, c'est une politique anti-jacobine, c'est une politique du bas vers le haut, même si j'aime pas cette expression. Dans la marmite, rien ne vous empêche de mettre un peu d'épices. Vous devez mettre des épices pour que ça soit meilleur. Vous devez donc mettre un peu d'expertise. Demander à des gens de venir vous aider parce qu'il y a tel truc, vous a chopé sur telle ou telle chose. Mais les experts viennent en cours de bouillonnement, je dirais territorial, et non pas en début comme explication des choses. Donc la deuxième décision que je prendrai quand je serai président de région de Bretagne, si les Bretons et les Bretonnes le souhaitent, c'est la suppression totale, pleine et entière et définitive des PowerPoint. PowerPoint, c'est une pensée du haut vers le bas, mais c'est simple à décider. Et bien, je peux vous dire qu'à partir du moment où vous supprimez les PowerPoint, c'est-à-dire cette pensée pyramidale où on part de la norme, du diagnostic, et puis ça décline, ça décline, ça décline comme ça, où en fait c'est une pensée organisée, je peux vous dire qu'à partir du moment où vous interdisez les PowerPoint dans une région, vous faites disjoncter l'ensemble des bureaux d'études qui ne savent plus comment travailler.
J'ai dit en liminaire dans cette émission que nous étions en binôme à présenter l'émission. J'ai beaucoup, beaucoup parlé. Je suis le juriste Maxime Maury et l'économiste. J'imagine qu'il a quand même quelques questions à vous poser. Maxime, on ne vous a pas beaucoup entendu, mais allez-y, lâchez-vous, si je puis dire.
J'ai pas besoin de me lâcher. Non, Monsieur Kerr, merci beaucoup d'avoir été un résistant, comme ma fille me l'a confirmer. J'ai un message pour vous et trois questions qui sont enchaînées les unes sur les autres. Le message, c'est qu'à Toulouse, nous avons mis en chantier un manifeste pour une France décentralisée dans une Europe fédérale. Et je vous l'adresserai. C'est un manifeste qui circule et qui débouchera probablement sur un colloque avant l'élection présidentielle. Mes questions ont pour but de vous demander votre appréciation sur la situation dans laquelle nous sommes. Vous avez parlé de la très grande difficulté de notre démocratie, la manière dont vous avez évoqué les réactions de la représentante de l'État, alors que vous étiez de parfaite bonne foi, malheureusement l'a confirmé. Alors la première question, est-ce que vous pensez que nous sommes en mesure de maîtriser la crise écologique et climatique dans laquelle nous sommes actuellement? Est-ce que nous allons la maîtriser? Si nous ne la maîtrisons pas, si nous risquons de ne pas la maîtriser, est-ce que les citoyens peuvent être, comme vous l'avez fait, amenés à prendre des initiatives? Et troisième question, est-ce que, alors quelles initiatives? Et troisième question, est-ce que ces initiatives pourraient déboucher, je dirais malheureusement, sur des mouvements de désobéissance qui, ce qu'on appelle la désobéissance civile, qui remettrait en profondeur et de manière plus radicale le fonctionnement de notre démocratie. Donc c'est une appréciation globale sur la situation que je vous demande de bien vouloir nous donner.
Daniel Koeff.
Oui, merci. C'est une question compliquée, évidemment. En préambule, si vous voulez, j'ai un peu envie de faire référence à la Convention des droits de l'homme et du citoyen qui prévoit déjà en 1789-1792 le fait que quand nous sommes représentants, si vous voulez, du peuple ou représentants des électeurs, si vous voulez, il ne faut pas que nous passions un statut dans lequel il est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire on représente les gens, puis dès qu'on est élu, on devient porteur de solutions pour tout le monde. Ça, c'est quelque chose, nous sommes que représentants. Et donc, nous n'avons pas à devenir tout d'un coup des experts sur tout et d'avoir des réponses sur tout. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut revisiter, je crois, sur le plan démocratique aujourd'hui. Nous représentons les gens, donc il faut absolument que sans cesse, nous ayons un renouvellement d'un exercice, une agilité démocratique qui nous permet sans cesse de venir reprendre attaches et racines. Donc, on a beaucoup de boulot en France, hein, évidemment, puisque nous sommes le pays qui, comme la Turquie, a un gouvernement central considérable et des préfets, des gouverneurs pour la Turquie, des préfets pour la France qui ont à eux tout seuls plus de pouvoir que tous les élus locaux réunis. Donc, c'est une anomalie démocratique, on n'aurait pas ça en Allemagne du tout. Donc, évidemment, on sent, si vous voulez, je sens bien depuis longtemps, et ça m'inquiète parce que, ayant pris un arrêté qui a été jugé par les tribunaux illégaux, beaucoup, beaucoup d'ONG, d'associations m'ont considéré comme un lanceur d'alerte, d'une part, et un désobéissant, d'autre part. Dans mon esprit, je n'étais pas un désobéissant puisque je voulais démontrer juridiquement face à une carence avérée de l'État, un maire pouvait agir en lieu et place d'un État défaillant. Donc, c'était quelque chose qui était plutôt institutionnel. Mais ça m'a permis, si vous voulez, d'être contacté par énormément de groupes, Extinction Rébellion, Alternativa, enfin, et j'en passe, qui, effectivement, ne croient plus en la démocratie, pensent que, de toute façon, tout ça s'est acheté, tout ça s'est plié, que les alliances entre les partis, tout ça, c'est une catastrophe, et que, comme dirait Bruno Latour, l'ancien régime climatique continue à s'organiser, à magouiller, à traficoter, etc., pour se maintenir en place sans avoir d'impact réel sur l'urgence climatique qui se présente à nous. Donc, il y a une tendance, si vous voulez, à faire par soi-même dans de ces groupes Extinction Rébellion. Pour l'instant, ces groupes sont non violents, sont joyeux, mais je vous signale quand même qu'ils sont soumis à beaucoup de répression. Quand une ONG, dont je ne me rappelle plus le nom, a été je dirais, décrocher le portrait du président Macron dans une mairie, je crois, et ils ont été poursuivis par l'État, et il a fallu un procureur de la République courageux qui dise non, cette action voilà, qui, de symbolique républicaine ou anti-républicaine ou de rébellion, etc., est en fait justifiée par le fait qu'il y a une inaction de l'État. Et donc le procureur a arrêté la procédure. Mais enfin, quand même, l'État a été mettre en place cette procédure. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, comme ce viticulteur. Il y aura un film que je vous conseille de regarder le 1er mars sur France 2, oui. Cet agriculteur qui, en 2014, je crois, ce viticulteur, décide de ne pas traiter ses vignes.
Oui.
Et qui se retrouve dans un procès où il risque, où il est même condamné en première instance à 1 an de prison avec sursis et plusieurs milliers d'euros d'amende. Après, il a été relaxé en appel. Mais enfin, vous voyez que donc il y a ça. Est-ce combien de temps tous ces jeunes très nombreux resteront en mode, je dirais, non-violent, alors que l'on attaque cette non-violence. Enfin, l'État attaque ces non-violences, voilà. Enfin, je rappelle quand même aujourd'hui que vous avez un jeune qui peut-être a fait une erreur en organisant en Bretagne une rave party du fait de la Covid-19. Peut-être que c'était pas une bonne idée, peut-être que c'était inconscient. Mais enfin, ce jeune aujourd'hui est en prison, et bientôt, il va faire plus de prison que Balkany. Et il a déjà fait plus de prison que Cahuzac, qui n'a même pas fait un quart d'heure de garde à vue. Donc, c'est quelque chose qui révolte un certain nombre de gens. Pour l'instant, ils sont non-violents. Le resteront-ils longtemps? Alors, moi, je suis de ceux, par contre, qui travaillent sur la question de, triste question d'ailleurs, de judiciariser les problèmes. D'où toutes les démarches que l'association que je préside, des maires anti-pesticides, faisons aujourd'hui au Conseil d'État, à la Cour européenne des droits de l'homme, à la Cour européenne, etc., pour dire le droit, pour faire dire le droit qui est que ces pesticides sont des atteintes intolérables à la santé publique et à la biodiversité, et surtout ont été mis sur le marché sans études préalables sur les conséquences pour la santé et l'environnement. Donc, on judiciarise, c'est comme le procès pour le climat, etc. On essaye de trouver des et on n'y arrive pas beaucoup, parce que même condamné, l'État ne bouge pas pour autant. Donc, ou condamné à prendre des mesures, comme ça a été le cas par le Conseil d'État, prendre des mesures de protection des populations, l'État a été obligé de prendre des mesures de protection des populations des pesticides de synthèse et a créé des distances dérisoires de 5, 10 ou 20 mètres selon la dangerosité des produits. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait dans ce décret une petite ligne comme quoi les préfets localement pouvaient réduire encore ces distances. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous avez des préfets, tous les préfets de France et de Navarre ont réduit les distances, n'ont fait aucune concertation pour réduire les distances. Vous savez pourquoi ils n'ont fait aucune concertation? Le motif qu'ils ont invoqué, c'est à cause qu'on ne pouvait pas se réunir du fait de la Covid-19. Voilà. Donc, ces protocoles que tente de faire signer l'État aux élus, notamment, commencent tous, par exemple, par article 1. On ne parle plus de pesticides dorénavant, on parle de médicaments des plantes. C'est vrai que c'est moins angoissant. Et on vous dit dans ces procédures-là, c'est-à-dire que nous allons épandre des pesticides près de chez vous, on va vous avertir, donc tous aux abris. Donc si jamais vous êtes malade ou qu'il vous arrive quelque chose, ce n'est pas faute de vous avoir prévenu, c'est vous qui êtes responsable de ne pas vous être protégé et d'avoir été là à ce moment-là, quoi. Et donc on a des tas de logiques qui nous sont dites par les préfets, hein. Vous savez, quand vous habitez à la campagne, hein, ben vous avez le son des cloches, vous avez le chant du coq et vous avez les pesticides. Je dis, je suis désolé, Madame la préfète, mais jusqu'à présent, ni le chant des coqs, ni le chant des cloches n'ont tué quelqu'un. Ce n'est pas le cas des pesticides. Oui, donc, on judiciarise, nos arguments sont puissants, ça ne passe pas non plus le cap juridique. Est-ce que ça amènera une révolte, une révolution? Je ne sais pas. En tout cas, c'est dramatique parce que les choses n'évoluent pas du tout sur le plan écologique, on va dire.
Daniel Queff, merci. Nous sommes presque au bout de cette émission. Voilà une heure que nous avons le plaisir de vous écouter. Donc, je vais rappeler déjà votre livre aux éditions indigènes, Paysans, on vous aime, défendez-vous, défendez-nous contre les pesticides de synthèse. Si vous voulez aller plus loin sur cette question également, je vous recommande la lecture d'un livre que je suis en train de lire et qui commence d'ailleurs par la question « Le glyphosate est-il cancérigène ?» C'est un livre de Marc Dufumier qui est agronome, professeur émérite agro-paritech, expert auprès des Nations Unies et de la Banque mondiale et qui a écrit un livre d'une lecture extrêmement variée et agréable « De la terre à l'assiette, 50 questions essentielles sur l'agriculture et l'alimentation ». Excellent ouvrage. Et je n'ai pas dit que votre livre aux éditions indigènes avait été préfacé par Corinne Lepage, ce qui n'est pas rien. Daniel Queff, merci d'avoir passé cette heure avec Maxime Maury et moi-même sur Esprit Occitanie. On a compris que vous vous engagiez dans la campagne, donc nous allons vous souhaiter bonne chance pour cette campagne régionale. Et puis j'espère que dans quelques semaines, je pourrai vous demander au nouveau président de la région Bretagne, une interview, pourquoi pas.
Merci, monsieur QF, et bonne chance.
Merci à vous, merci beaucoup.
Voilà, c'était Résilience, une émission de Maxime Maury et de Jacques Lavergne, avec à la réalisation Yanis Boudin, qui aura la charge de monter cette émission. Vous pourrez retrouver le podcast de celle-ci, ainsi que ceux de toutes les autres, sur le site d'Esprit Occitanie ou sur l'application dédiée pour smartphone. À bientôt pour un nouveau numéro de Résilience. Encore une fois, Daniel Queff, merci. Au revoir, belle journée à toutes et à tous.